Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bonjour, je suis Anne, de l'équipe Audible. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de sponsoriser ce nouvel épisode de Sillage, le podcast créé par les EcoStarts. Il est bien sûr disponible sur l'application Audible. D'ailleurs, si vous aimez écouter des podcasts ou des histoires inspirantes de parcours professionnels, je vous invite à faire un tour sur notre catalogue. Des coachings audio aux fictions sonores, vous pourrez y télécharger de quoi assouvir votre soif de découverte. En attendant, je vous souhaite une très bonne écoute et longue vie à Sillage.
Une course de haies. Voilà à quoi peut ressembler la scolarité des bons élèves. Bac, prépa, grandes écoles, chaque étape est ponctuée d'un concours. Et chaque réussite prouve que l'on fait encore partie des meilleurs. Mais paradoxalement, cette route peut être totalement dénuée de choix. Ce sont les profs, les parents, l'ego de l'étudiant qui sont moteurs. Jusqu'au jour où tout cela s'écroule, où l'on réalise que la destination manquait de sens. C'est ce qui est arrivé à Pauline Laigneault. Dans ce nouvel épisode de Sillage, elle nous raconte comment on peut échouer, puis se reconstruire et se retrouver, loin des chemins que les autres avaient tracés pour nous.
On est en décembre 2010, je suis en train de passer l'oral de l'ENA. Je suis dans une salle, il y a 6 personnes en face de moi, c'est toujours très impressionnant d'avoir un entretien de personnalité comme ça. Ça s'appelle le grand oral quand même. Et donc ces personnes vont juger un petit peu mon parcours, mon expérience, ma personnalité et me dire si je corresponds ou pas à l'ENA. J'ai l'impression que ça se passe plutôt bien. Je raconte un peu ma vie, on me demande qu'est-ce que j'ai vu au cinéma, quels sont les livres que j'ai aimés, etc. Donc franchement j'ai l'impression que voilà, ça se passe bien. J'attends les résultats, une semaine, deux semaines, quelques semaines passent. Et là, le coup près tombe. Non seulement je n'ai pas eu l'ENA, mais en plus j'ai eu une note catastrophique au grand oral, 2 sur 20. La morsure de rage et de honte est absolument colossale. Ça peut paraître bête, mais ça fait quasiment 10 ans en fait que je travaille et que c'est l'aboutissement de toutes ces années d'études. Et j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait a été balayé d'un revers de la main. Honnêtement, ça a été absolument terrible comme décision. Je sais que ça peut paraître complètement débile et un peu prétentieux de se dire « Oh, la pauvre petite, elle a raté l'ENA, elle va pas s'en remettre ». J'ai fait en fait une espèce de mini-dépression parce que je pense que je me suis rendu compte que toutes ces années d'études, que tout le travail que j'avais fourni, que tous les efforts que j'avais faits, surtout que tout ce que j'avais dit autour de moi, en fait, était réduit à néant. Quand j'étais petite, j'étais plutôt pas mauvaise élève. J'étais assez nulle en maths, faut être honnête, mais j'adorais le français, j'adorais la grammaire, j'adorais les rédactions. Et du coup, assez naturellement, je me suis orientée vers des études littéraires. J'ai d'abord fait une première et une terminale L. Et mes profs me disaient, je pense que t'as peut-être le potentiel de faire des études littéraires et de rentrer un jour à Normale. À l'époque, je ne savais pas tellement ce que c'était, sincèrement. Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Je me suis juste dit, bon, ben, mes profs me disent que c'est bien. Mes parents aussi me disaient que c'était bien. J'ai essayé de tenter ça. Donc, j'ai fait une prépa. J'ai travaillé énormément. Et de fil en aiguille, mes parents, mon père notamment, qui n'avait pas fait trop d'études, qui était entrepreneur, m'ont énormément poussé en fait, dans cette direction. Ils étaient très fiers de voir que leur fille, à eux, alors qu'ils n'avaient pas fait particulièrement d'études, bah, était capable en fait, de potentiellement rentrer dans une école aussi prestigieuse. J'ai senti, je dois dire, une forme de pression, même si je pense que c'était bien intentionné. Mais au final, j'avais la sensation que ça ferait tellement plaisir à mes parents et à mon père notamment, qu'il fallait que je donne tout, qu'il fallait que je donne tous les efforts pour pouvoir rentrer dans cette école. Et c'est ce que j'ai fait. Donc après 2 ans de travail acharné, même 3 ans parce que j'ai cubé, je rentre finalement à Normale Sup. Et là, bizarrement, je ne suis pas du tout heureuse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on rentre à Normale Sup, on rentre pour devenir chercheur ou enseignant. Et donc, bah, il faut une vraie vocation. C'est quand même des métiers difficiles. C'est des métiers voilà, où il faut un vrai investissement personnel. Moi, j'étais quand même plus rentrée là-bas, tout simplement parce que j'étais bonne à l'école et que j'avais été un peu une gentille petite fille très sage qui avait suivi ce que son papa lui disait de faire et aussi ce que ses profs lui disaient de faire, que j'avais beaucoup travaillé, certes, mais bon, j'avais pas vraiment ça en moi. Et donc, quand je suis arrivée, qu'en plus on m'a demandé de passer l'agrégation, que j'ai dû encore beaucoup travailler, ça a été une période très difficile parce que j'aurais dû être heureuse d'avoir eu ce succès et d'être dans cette école, mais je me rendais compte que ça me correspondait pas du tout. Ceci dit, j'avais encore donc mon père qui me disait qu'il était fier de moi, que vraiment c'était la bonne voie. Surtout, il y avait cette idée pour lui de sécuriser en fait mon emploi, de vraiment faire en sorte que sa petite fille chérie allait réussir à avoir un métier, le garder toute sa vie. Enfin, cette notion voilà de sécurité était très importante pour lui qui était entrepreneur. Ben, je me suis rendu compte que je voulais continuer un peu à lui faire plaisir. Je ne me posais pas tellement de questions en fait à l'époque, mais j'ai voulu lui faire plaisir et donc de fil en aiguille, on a décidé que j'allais passer l'ENA et que j'allais essayer de devenir un grand serviteur de l'État. Mon père, c'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est un homme qui est parti de rien. Il avait vraiment aucun patrimoine quand il est né. Il a tout fait tout seul. C'est vraiment le self-made man comme on peut rêver en fait d'en croiser un dans sa vie. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa comme ça. C'est un homme voilà qui a énormément travaillé, qui en plus est très très généreux. Mais il a toujours eu en lui un peu une fatigue justement de devoir en permanence se battre, en permanence travailler. Donc, il est entrepreneur dans l'immobilier. Et toute sa vie, il m'a dit, ma petite fille, toi, j'ai vraiment envie voilà, de que tu ne vives pas la même vie que moi, que pour toi, ça soit plus facile, que tu fasses des études, que tu n'aies pas à te poser de questions, que tu ne manques de rien. Et donc, c'est pour ça qu'il m'a vraiment beaucoup poussée en fait, à faire des études prestigieuses, parce que lui, il n'avait fait aucune étude, il a son bac et c'est tout. Du coup, je me suis un peu laissée guider par ça, parce que à la fois, je voulais faire plaisir, je pense que je voulais bien faire aussi, puis j'étais un peu paumée, sincèrement. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée à 26-27 ans à rater un concours, l'ENA, qu'au final, j'aurais jamais dû passer et que j'ai jamais vraiment eu envie d'avoir. Et je pense que le jury du grand oral de l'ENA, justement, s'en est rendu compte. Et c'est pour ça qu'ils m'ont mis une mauvaise note. Donc au final, ils me connaissaient mieux que je me connaissais moi-même. C'est assez drôle quand on y pense. J'ai eu une période un peu de semi-déprime, on va dire, où vraiment je me suis complètement refermée sur moi-même. Je me reconnaissais plus. Enfin, j'étais complètement, abasourdie. Je me plaignais, je me disais que c'était injuste, qu'ils n'avaient pas compris, que ce jury, quand même, ils étaient nuls, que je le méritais, que techniquement, j'étais au point. Et probablement, c'était vrai. Mais en fait, c'était juste pas moi-même et surtout, c'était pour les mauvaises raisons que je le faisais. Et quand j'ai compris que j'étais enfermée depuis 3 mois dans ma chambre, que je parlais à personne, que j'avais même honte de dire que j'avais ce concours, que j'avais raté ce concours, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me bouge, qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il fallait que je décide de changer de vie. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Et donc cet échec, parce qu'il a été vraiment douloureux, je pense m'a forcé à faire un petit miracle, c'est-à-dire vraiment réfléchir à ce que je voulais, qui m'a donné du sens. Qu'il a vraiment donné du sens à ma vie parce qu'il m'a permis de vraiment me poser les bonnes questions. Et donc, j'ai décidé de ne pas repasser l'ENA. Là, à nouveau, assez difficile parce qu'il faut que je l'annonce à mon père, notamment, qui est quelqu'un d'assez impressionnant dans l'absolu. Et je lui dis, papa, je ne veux pas le repasser. Il a pas vraiment cru, en fait, que j'allais le faire. Je pense qu'il y a eu une petite dénégation de sa part pendant plusieurs mois, voire, je dirais, au moins 1 à 2 années. Mais j'ai décidé à ce moment-là que je ne voulais plus vivre le rêve de mes parents et que je voulais commencer à être une grande fille et à vivre par moi-même. Et donc, j'ai décidé de ne pas repasser ce concours et de commencer à faire ce que j'aimais vraiment. Donc, quand je réalise que je veux... en fait, ce qui m'intéresse, c'est l'aventure, le risque, je me rends compte assez naturellement que c'est probablement l'entrepreneuriat, le métier le plus proche, en fait, de ce genre de valeurs. Que malheureusement, j'y connais rien. Qu'en plus, toute ma vie, mon père m'a dit qu'il fallait absolument pas faire ça et que vraiment, ça allait être très compliqué. Mais j'ai envie de le faire quand même. Comme j'y connais rien et qu'au final, j'ai déjà fait tellement d'études que je me dis un peu plus ou un peu moins, ça va pas changer grand-chose. Et bien, donc, je suis rentrée à HEC. C'est un concours que j'avais passé en parallèle de l'ENA en me disant, j'irai jamais là-bas, mais bon, j'essaye de me baquer, etc. Et en fait, du coup, naturellement, j'ai pu rentrer à HEC. Et là, ça a été une révélation pour moi parce que j'ai commencé à découvrir le monde de l'entreprise. quelque chose que je connaissais pas du tout. Et j'ai été absolument fascinée par cet univers. Et surtout, j'ai senti en fait que ça me correspondait, que toutes ces années où j'avais énormément travaillé sur plein de sujets très intéressants, c'était des sujets qui me concernaient moins, c'est des sujets qui me ressemblaient moins, tout simplement. Ben, j'ai enfin eu, à l'âge de 28 ans, un déclic professionnel et je me suis rendu compte de ma vraie vocation. J'ai eu un peu le sentiment de faire un coming out. Ce qui est paradoxal, c'est que je pense qu'eux étaient persuadés que j'étais très heureuse de passer tous ces concours. Mais au final, pour moi, quand j'ai dû dire à mes parents, et notamment à mon père qui lui-même était entrepreneur, que je voulais moi aussi être entrepreneur, ça a été assez dur parce que lui, il avait voulu me protéger toute ma vie, que lui, il en avait vraiment bavé pendant toutes ces années. Et quand j'ai dû lui annoncer que non, moi aussi, je voulais être entrepreneur, que moi aussi, je voulais des emmerdements, que moi aussi, je voulais vivre une entreprise à la dure, je pense qu'il n'y a pas cru. Il s'est dit, mais c'est pas possible. J'ai travaillé toute ma vie justement pour qu'on n'en arrive pas là. Et donc, ça a été une forme de coming out. Ça a été assez douloureux de lui dire. Mais j'étais très heureuse de le faire malgré tout. Et je ne regrette évidemment pas. Parce que ça m'a permis justement de me prouver à moi-même que j'étais capable de prendre mes propres décisions et de les assumer. Et ça, c'est quelque chose que j'avais très peu fait par le passé. Et donc, ça a été un moment assez fort dans ma vie. Alors, quand je suis à HEC, du coup, je comprends rapidement que je veux entreprendre. Mais bon, j'ai pas d'idée, ce qui arrive souvent. Je sais que l'entrepreneuriat, ça m'intéresse, mais sans idée, c'est un petit peu compliqué. Et donc, je discute beaucoup avec mes amis, etc. Et je finis par trouver une idée que je trouve pas mal, qui est de faire une sorte de MOOC, mais vraiment avant l'heure, parce que là, on parle de 2010-2011. Un MOOC en mode formation à distance pour pouvoir justement rentrer dans des grandes écoles. Il faut quand même se dire qu'à l'époque, moi, j'avais passé un nombre de concours incalculables. Donc, aider des gens sur la méthodologie pour rentrer dans des grandes écoles, ou faire des dissertations, c'est quelque chose que je maîtrisais. Et je me suis dit, on pourrait réussir à faire des panels d'alumni, faire des espèces de cours à distance donc sur le web, avec un modèle un peu freemium, et ensuite, pourquoi pas, des conseils plus personnalisés payants, ou quelqu'un qui veut rentrer à HEC, à Harvard, peu importe, dans n'importe quelle université, ou finalement passer n'importe quel concours, serait pu ensuite même devenir pour des entretiens, pour travailler dans un grand cabinet de conseil, par exemple, eh bien, une formation avec des personnes, des alumni qui sont déjà passés par là et qui peuvent vous donner des vrais conseils concrets. Donc l'idée, je continue à penser qu'elle n'était pas si mal, mais ça a été un échec cuisant, mon premier échec entrepreneurial, parce que je me suis plantée sur tout, je me suis mal associée avec des personnes qui étaient à la fois à Paris, en avait en province, en avait à l'étranger, avec des personnes qui n'étaient pas à temps plein sur le projet et moi la première. Avec une vision du business model qui était plus qu'imparfaite et avec sincèrement un produit qui n'était pas du tout assez travaillé. Donc à tous les niveaux, je pense que j'ai fait des erreurs, mais ça a été hyper enrichissant parce que justement, j'ai appris à nouveau par l'échec qu'il fallait typiquement s'associer avec des personnes qui habitaient dans la même ville, être à 100% sur un projet, des choses bêtes quand on y pense, juste pétri de bon sens, mais qui, quand vous démarrez, en fait, sont pas en fait des évidences. Et donc, ce deuxième échec, je pense, m'a permis de recréer ensuite une entreprise de façon beaucoup plus sereine que la première fois. Il se trouve que mon copain de l'époque, ça faisait déjà au moins 6 ou 7 ans qu'on était ensemble, est à l'époque aux États-Unis, parce que lui, il était consultant. Il a fait, comme moi, assez peu de choix. Finalement, il était bon à l'école aussi. Et donc, assez naturellement, après des études d'ingénieur, il devient consultant dans un grand cabinet de conseil. Et il se rend compte au bout d'un moment qu'il sent qu'il y a quelque chose qui cloche, que cette expérience, c'est pas vraiment ce qu'il lui faut. Surtout qu'il n'admire pas nécessairement ses boss et qu'il a envie de quelque chose de différent, qu'il a envie de quelque chose avec plus de sens. Et donc, il décide de faire une pause et il va faire 2 ans de MBA aux États-Unis, à Harvard. Et pendant ce temps-là, en fait, moi, j'étais en train de rater l'ENA, concrètement. Donc, il me coachait un petit peu à distance, on discutait, on a fait des innombrables soirées sur Skype. Et c'est en fait tout bête, mais quand il est rentré en France, c'était au moment où j'étais à HEC, on s'est rendu compte tous les deux en discutant tellement, parce qu'on se posait des questions tous les deux, qu'on voulait tous les deux entreprendre. Ce qui est drôle, c'est qu'on n'avait pas du tout envisagé de travailler ensemble, parce qu'en fait, ça se fait pas tellement, c'est assez rare finalement. Donc, on parlait d'entrepreneuriat dans l'absolu, mais on n'avait jamais même envisagé l'option de travailler ensemble. Quand il rentre en France, donc, moi je suis encore étudiante à HEC, il décide qu'il veut créer sa boîte, il n'a pas d'idée non plus, et donc il se dit, je vais me forcer à faire quelque chose, et donc je vais démissionner de mon cabinet de conseil, comme ça je n'aurai pas le choix. Je serai bien obligée de créer une entreprise et d'essayer de subvenir à mes besoins. Donc il démissionne. Il se trouve qu'il me demande en mariage aussi, parce que finalement, il voulait mettre tous les risques en même temps. Je dis oui. Et donc, on va chercher une bague de fiançailles, parce qu'on n'avait pas de bague de fiançailles de famille. Et c'est à ce moment-là qu'est apparue l'opportunité de Gemio et de la joaillerie. Parce qu'en faisant le tour de toutes les belles maisons de joaillerie et de tous les petits joailliers de quartier qu'on a pu voir, on s'est rendu compte que c'était un secteur assez vieillissant, qui avait très peu été rénové depuis les années 80, et qui avait probablement une opportunité pour une marque de joaillerie plus jeune, plus moderne, avec une distribution différente, avec un business model différent. Et donc naturellement, comme on a vécu cette expérience ensemble et qu'on voulait tous les deux entreprendre, on a commencé à se dire en fait on pourrait peut-être le faire ensemble. Et tout le monde autour de nous, évidemment, nous a dit « jamais de la vie, ne faites pas ça, c'est un cauchemar, vous allez tout perdre, vous allez divorcer ou ne jamais vous marier, vous allez planter votre boîte, enfin ça va être un cauchemar ». On l'a fait quand même. Et aujourd'hui, on ne regrette pas. Ce qui est marrant, c'est que du coup, on s'était fixé une deadline au bout des 3 mois. Il y avait 2 deadlines, en fait. Il y avait la deadline de « Sharif et Pauline arrivent-ils à travailler ensemble ?» ce qui n'était pas gagné, sans s'engueuler tout le temps. Et la deuxième deadline, c'était « Est-ce qu'on arrive à créer un site internet et à être capable de vendre un premier bijou ?» On s'était créé une deadline opérationnelle qui nous permettait d'avoir un fil conducteur sur quoi faire. Parce que sinon, dans l'absolu, se dire juste « Je veux créer une marque de joaillerie », on ne sait même pas par où commencer. Là, on savait qu'on voulait un site internet, qu'on voulait pouvoir vendre des bijoux. Donc, ça veut dire qu'il faut des modèles, il faut des pierres, des métaux, il faut un module de paiement. Enfin, tout en découlait. Et donc, la deadline, c'était le 1er septembre 2011. En gros, le site internet est sorti. Il a été live. Il était immonde. Personne n'était dessus, évidemment, parce que le site internet existe, mais il n'y a pas pour autant du trafic dessus. Mais au moins, il existait et on était capable, entre guillemets, de vendre des bijoux. Et quand on s'est regardé, donc avec Sharif et Malek à ce moment-là, on s'est rendu compte que si on avait été capable de faire ça avec rien en 3 mois sans connaître personne du secteur, a priori, c'est qu'on avait une association qui fonctionnait. Et tout simplement, en fait, on s'est regardé, on s'est rendu compte qu'on aimait travailler ensemble, qu'on était hyper complémentaires et que c'est pas parce qu'on était de la même famille qu'il fallait pas le faire. Et donc, même si toutes les personnes autour de nous trouvaient que c'était très risqué, on s'est dit au final, si c'est ce qu'on pense être le mieux pour nous et pour notre boîte, faisons-le, tant pis. Alors là, maintenant, Gemio a 6 ans. Quand j'y pense, ça ne me rajeunit pas. Comment est-ce qu'on a évolué? Déjà, on a créé une marque. Aujourd'hui, Gemio est le troisième mot-clé, si je puis dire, de joaillerie tapée en France, derrière Cartier et Tiffany's. Donc, sincèrement, là-dessus, c'est vrai qu'on est assez heureux et fiers de se dire qu'on a réussi, à partir de rien, à sortir de terre une marque. Et donc, depuis 6 mois maintenant, Gemio, effectivement, est rentable. Et donc, c'est une entreprise maintenant qui se développe sur fonds propres. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une forme de fierté, finalement, de se dire qu'on a un petit bébé avec Sharif et Malek, mais qui a grandi et que maintenant, il fait ses nuits. Au final, toutes ces opportunités, tous ces petits aléas de la vie, en fait, font que je suis vraiment, sincèrement très heureuse et que je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie. Ce qui est drôle, c'est que mes parents, je pense, à un moment, étaient un peu désabusés du monde du travail et je pense qu'ils en avaient souffert. Et au final, je ne sais pas si j'ai contribué à ça, mais je pense qu'ils ont vu qu'on pouvait vraiment s'épanouir dans le monde du business, dans l'entrepreneuriat et qu'on pouvait... non seulement avoir une entreprise où on avait des employés heureux, qu'on pouvait soi-même être heureux en fait de faire ce qu'on faisait, qu'on pouvait être hyper motivé, avoir énormément d'énergie. Et je pense que ça leur a un peu redonné aussi cette énergie. Et je vois qu'ils se sont remis à énormément travailler. Ils travaillent ensemble en plus. Donc ils se sont remis vraiment d'arrache-pied dans une énergie débordante pour leurs activités. Et je trouve ça super. Enfin, du coup, on en discute, on parle de business. Je les conseille un petit peu, eux me conseillent. Enfin, je trouve que c'est hyper vertueux. Et je pense qu'on est tous dans une émulation très positive qui fait que, on voit notre activité professionnelle comme quelque chose d'hyper enrichissant et qu'on a juste envie de le partager.
Merci à Pauline d'être venue dans le sillage des EcoStart et à vous d'avoir écouté son histoire. Si cet épisode vous a plu, dites-le nous avec des étoiles sur iTunes et retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, les EcoStart. Je suis Déborah Loy et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.